La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.
La bande du jeudi.
La bande du jeudi.
Merci les Getseka Lions, merci d'offrir des vacances anticipées et prolongées au HC Ajoie, mais surtout un maintien sans passer par le play-out, voire le barrage. C'en est terminé donc de l'hiver 2023-2024 des Vouivres, et pour ce dernier épisode de la saison, la bande du jeudi fait le bilan des jaunes et noirs avec le grand patron du club, le président Patrick Aouert. Patrick Aouert qui nous dévoilera les meilleurs joueurs qu'il a côtoyés en 25 ans de présidence en distribuant ses étoiles. On évoquera ensuite son rôle, le développement du club, la saison du HCA bien sûr, puis une surprise signée Rafi. Le face-à-face va prendre la forme d'un grand quiz de la première saison de votre podcast Jaune et Noir. Et puis pour terminer, on évoquera le futur du hockey suisse avec notre invité. Installez-vous bien, c'est parti.
La bande du jeudi.
Bienvenue à vous toutes et à vous tous. L'incertitude a donc pris fin vendredi soir, juste avant 22h. Les Getseka Lions ont rejoint la chaude fond en finale des playoffs de Swiss League. Le play-out de National League entre Ajoie et Kloten passe à la trappe. C'est donc la fin de saison pour le HCA, l'occasion de vous proposer un tout dernier podcast pour cette saison 23-24. Toujours avec Rafi Kuyumjan du quotidien jurassien. Salut Rafi.
Salut.
Surpris par ce dénouement?
Vendredi soir, franchement.
Vendredi soir.
Oui. Alors, je n'imaginais pas un instant que Kloten allait perdre ainsi lors de ce match 7 à domicile.
Je crois qu'il y a eu pas mal de réactions de ce genre-là dans le Jura. Et puis, avec le retour de Julien Beugli, aussi journaliste à Sport Center, bienvenue à toi, Julien. Comment t'as vécu, toi, ce vendredi soir?
Un peu particulier. Bah, je rentrais d'une semaine de travail intensif. Et puis, j'arrive à la maison quand le match débutait. J'ai lutté pour rester éveillé, pour poursuivre le résultat, mais soulagé, quoi. Soulagé, et comme l'a joliment dit une connaissance le week-end passé, justement, cette élimination d'Holton, elle a permis de riquiquifier notre angoisse printanière. Je trouvais ça joli,
ouais,
parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a 12 mois, je crois qu'ici autour de la table, on est tous d'accord, l'angoisse, elle était marquée, était présente dans la région, et puis voilà, quoi, on profite un petit peu de ce relâche. Je crois que les joueurs profitent également, eux qui sont partis au moment où ils nous écoutent pour 3 jours de voyage d'équipe sous le soleil lisboète, m'a-t-on dit.
Bien renseigné. Et pour terminer en beauté cette saison, c'est donc le président Patrick Aouert qui nous accompagne pour une bonne demi-heure. Merci beaucoup d'être avec nous, soulagé depuis vendredi soir.
Oui, absolument, très soulagé.
C'est très clair. Est-ce qu'on maintient le tutoiement? Ça a été de rigueur hein, toute la saison dans ce podcast. Est-ce qu'on peut maintenir le tutoiement avec le président également?
Absolument. Ok, on se tutoie d'ailleurs. C'est normalement, c'est toujours comme ça.
Le débrief.
Pas de match? Pas d'étoiles, c'est cela? Non, quand même?
On va quand même en distribuer quelques-unes.
On va pas perdre la main. Dans la lignée de ce que vous avez proposé la semaine dernière, mes chers confrères, je propose à notre président ici présent de se livrer au jeu de l'attribution des étoiles. Patrick, quels sont les joueurs qui méritent des mentions à tes yeux, tes 3, tes 2, ton étoile sur l'ensemble de la saison? Tu les réserves à qui?
Ah bien, on va les réserver un petit peu à des défenseurs finalement, parce qu'on en parle pas trop souvent. C'est toujours les attaquants qui font le plaisir des supporters, mais il faut aussi voir les défenseurs et puis aussi nos gardiens, parce que on a eu quand même une bonne statistique, un très bon box play à 4-5 malgré tout ce qu'on a vécu cette saison. Donc ça c'est grâce à nos gardiens. Et puis là je vais donner des étoiles à aussi bien à Tim qu'à Damien Ochacho, parce que je pense qu'il le mérite. Et puis encore un défenseur qui gentiment nous prouve qu'il a les capacités de jouer en National League. C'est ça, maintenant ça sera sa troisième saison au HC Ajoie, c'est Valentin Pilet.
3 étoiles partagées donc entre Tim et Damien Ochacho, et puis la dernière à Valentin.
Et la dernière à Valentin. Okay.
Ça veut dire aussi que le président n'a pas apprécié le visage offensif du HC Ajoie cette saison?
Bah écoutez, je pense pas être le seul qui l'ait pas apprécié, parce qu'on avait la moins bonne attaque de la ligue, hein. Et puis on a vu durant toute cette péripétie de cette saison qu'on a raté l'immanquable, qu'on n'était pas présent sur le power play, on était nettement insuffisant au niveau de l'attaque.
Au niveau de la défense, moi, je suis presque surpris de voir qu'il y a Valentin Pilla qui sort du lot. Alors, pas de là à dire qu'il fait une mauvaise saison, ouais. Hein, mais on en a mentionné d'autres qui étaient peut-être devant. Raffi, ça te surprend, ça ?
Pas plus que ça, ouais. C'est vrai que Valentin, ça reste un défenseur solide qui a eu du temps de jeu aussi cette saison. Et puis, vrai, c'est vrai, on a parlé de Thomas Thiry la semaine passée, de Yannick Fischer, de Kevin Fay. Mais comme le dit Patrick, ça montre aussi cette résistance défensive qu'on a beaucoup appréciée durant cet hiver. Et puis, voilà, quoi. C'est vrai, maintenant, c'est cette touche offensive qui doit absolument être amenée à ce groupe. On se répète, hein.
Je vous ai écouté attentivement, en tout cas, sur vos étoiles la semaine passée. J'étais assez d'accord avec vous. Mais c'est vrai que, alors, moi, quand j'ai entendu Patrick, j'étais assez d'accord aussi sur les deux gardiens. Mis l'un à côté de l'autre, je crois. Peut-être un petit bonus pour Tim, mais plus au-delà de sa saison, plus pour tout ce qu'il a apporté aussi depuis qu'il est à Ajoie. Hein. Et puis voilà, il y a eu son départ. Alors, le public l'a un petit peu félicité, remercié le dernier match, qu'on pensait pas forcément être le dernier match. Je trouve qu'il le mérite. Puis au niveau défensif, alors ouais, voilà. Mathieu s'en souvient, je pense qu'il sait quel nom je vais sortir. C'est vrai que moi, celui qui m'a séduit, puis qui est pour moi aussi un petit peu le liant aussi de cette bonne prestation défensive sur la saison, ça reste Yannick Fischer, qui était une sacrée bonne pioche, quoi.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui nous en ont parlé, hein. Que ça soit pendant l'enregistrement ou après l'enregistrement, ouais, de ce podcast, on discute encore avec les joueurs. Et c'est vrai que Raffi, Yannick Fischer, il ressortait assez fréquemment comme voilà, le type qui fait du bien tant sur la glace que dans le vestiaire aussi. On sent qu'il a déjà pris une vraie dimension de leader dans le vestiaire du HCA.
Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui arrive ici avec un sacré bagage de l'expérience, et ça fait aussi la différence autant sur la glace que dans le vestiaire. Et puis on a vu, c'est ce qui manquait au début de l'aventure du HCA en National League, c'est cet ajout d'expérience. Puis petit à petit, on voit des Kevin Fay, des Yannick Fischer et d'autres joueurs comme ça arrivent avec leur bagage, et c'est ce qu'il faut aussi.
Alors, moi, je suis d'accord avec vous sur le fond. J'entends, j'aurais pu aussi donner une étoile à Kevin, j'aurais pu donner une étoile à Yannick.
Mais faut faire des choix.
Mais pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce que Valentin, il faut pas oublier, il y a 2 ans, il vient de la Swiss League. Ouais. Il y a personne qui le veut sur le marché. Et puis, par exemple, chez nous, Jordan, il y a longtemps qu'ils m'ont parlé, qu'ils me disaient on n'aurait jamais dû le laisser partir, il fallait le garder chez nous. On l'essaye, et voilà qu'au bout de 2 saisons, 3 saisons, il commence, c'est un joueur de National League. Et donc, il a fait un progrès assez faramineux par rapport au niveau où il était avant.
Ouais. Et on vient d'avoir une vraie info, ça veut dire que Jordan Howard, c'est le directeur technique bis, tu as ça.
Il n'est pas encore.
Ah, pas encore.
Mais c'est vrai que il a beaucoup de contacts avec Julien et puis avec le staff technique, ce qui est normal.
Julien, on regarde aussi un peu plus largement, c'est compliqué, parce qu'il faut qu'on le précise, on n'a pas préparé le président à ces questions-là.
Non, mais justement, quoi, on prend un petit peu comme ça ce réchaud, mais pour cette dernière de la saison, on va un peu modifier aussi les règles ou les prolonger, si tu le veux bien, Patrick. On va te demander aussi de nous donner également ton top 3, 25 ans de carrière, hein, de présidence. C'est difficile comme question, parce qu'il y en a eu je dirais même pas des dizaines, mais des centaines de joueurs qui sont passés dans ton bureau. Mais ton top 3 des joueurs qui ont marqué ces 25 dernières années qui ont évolué à Ajoie. Il y a des noms comme ça qui deviennent en tête naturellement?
Oui, bien sûr, il y a même beaucoup de noms qui me viennent en tête, mais il faut choisir 3. Alors, on veut choisir ceux qui ont amené quelque chose au club, où le club, il a le plus progressé avec. Alors, moi, je vais prendre peut-être un centre. Le centre, c'est Stéphane Roy, pour moi, qui a amené beaucoup de professionnalisme à l'intérieur du vestiaire aussi, et beaucoup de d'honnêteté, et puis de travail, d'éthique de travail. Mmh. Ça, c'était important pour la suite des événements. Et puis après, il y a les jurassiens, hein. Il y a Steven, hein, qui j'entends a été quand même le meilleur buteur suisse du club, avec qui on a vécu un titre de champion suisse. Et puis, je vais dire Jordan. Alors, certains diront, voilà, le père, il défend le fils. Mais je pense qu'avec plus de 1000 matchs dans ce club, avec 2 titres de champion suisse, une coupe suisse, une ascension National League, ces 3 joueurs qui ont quand même marqué le club. Quoi.
Ouais, tu nous donnes deux des trois noms que tu nous as donnés. Ils ont déjà leur maillot qui est retiré sous le toit de la patinoire. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le c'était quoi, le 25,
le 25
voilà.
Stéphane,
est-ce qu'il faut s'attendre peut-être que le 25, une fois, soit retiré?
Non, je ne pense pas, parce que les règles pour retirer les maillots sont relativement assez strictes, notamment en fonction du nombre de matchs joués, en fonction des saisons au sein du club.
Et les critères, oui.
Et ces critères-là, Stéphane Roy ne les remplit pas tous.
Rafi, Stéphane Roy, ça rappelle de sacrés souvenirs.
Quand Stéphane Roy est parti, on a beaucoup entendu les années suivantes. Alors, on a toujours peut-être rêvé d'un retour de Stéphane Roy dans l'organisation. On entendait régulièrement des bruits. Est-ce qu'il y a vraiment eu, est-ce que vous avez vraiment noué des contacts avec lui pour lui proposer un jour un rôle au HC Ajoie? Il y a eu des contacts durant ces dernières années?
À l'époque, oui. Mais lui, il n'était pas prêt parce qu'il était rentré là-bas au Québec avec toute sa famille. Et puis, son épouse avait retrouvé du travail. Et lui, il jouait encore un petit peu au hockey. Je crois qu'il était même assistant entraîneur dans une petite ligue. Et puis, ça, c'est pas fait. Et puis, par la suite, on a trouvé quelqu'un d'autre. Et puis, voilà.
C'était quoi, comme entraîneur ou bien comme...
C'était comme entraîneur, oui.
Ah ouais, d'accord. Sur le grill.
Personne n'échappe au grill de la bande du jeudi, hein, pas même le président Patrick Aouert, tout proche de l'âge de la retraite, si je ne m'abuse, mais toujours bien installé aux commandes du club. On va retracer ton parcours au HC Ajoie, s'attarder naturellement sur cette troisième saison consécutive en National League, et puis évoquer un peu la suite. Patrick Aouert et le HCA, c'est une histoire qui a commencé en 1988. Comment ça s'est fait ?
Ça s'est fait parce que déjà, moi j'allais à tous les matchs à l'époque, hein, j'étais fan de hockey, pas que moi, ma maman qui aujourd'hui a 97 ans et qui regarde encore les matchs à Marais Sport parce qu'elle vient plus à la patinoire, donc on était très très fervent de hockey, on ratait pas un match, et puis en 88, il y a un copain qui me dit, écoute-toi, au HC Ajoie, ils auraient besoin de quelqu'un pour aller un petit peu structurer une commission de sponsoring, des choses comme ça, que tu viendrais pas donner un coup de main. Je dis, ouais, je viendrai une année ou deux. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, je suis entré comme ça.
Pour donner un petit coup de main, et puis 11 ans plus tard, c'est la présidence hein, qui vous tend les bras, en quelque sorte. Ça fait 25 ans. C'était une évidence, cette présidence?
C'était pas une évidence au début, mais avec ce que j'avais vécu au HCA, ce que je connaissais, j'entends, puisque le HCA, on le connaissait dans tous les détails, il faut pas oublier qu'avant d'en arriver là, on a eu des immenses problèmes financiers, qu'il a fallu aller gratter partout pour savoir d'où ça venait, quel était le problème, quelles étaient les erreurs qu'il fallait plus commettre. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et forcément qu'à un moment donné, j'ai dit oui, je la reprends cette présidence. Voilà.
Et à ce moment-là, tu te souviens la longévité que tu te donnais à ce poste de président?
Non, je ne te donnais pas de longévité particulière, parce que voilà, on avait des objectifs. On était en première ligue, hein, faut pas oublier. Donc, objectif, c'était de monter en la Ligue B de l'époque, et puis de s'y installer confortablement, d'y rester, et puis de s'améliorer année après année. Et puis voilà, puis les années passent, on a toujours la passion. Il faut dire aussi que je suis appuyé par trois personnes, Thomas Schafter, Claude Girardin et Patrick Vernier, qui sont là aussi depuis des années. On s'entend très bien, et puis on a toujours fait fonctionner ce club le mieux que l'on pensait, c'est-à-dire les décisions qu'on prenait étaient toujours, évidemment, c'est des décisions qui concernent les finances, parce qu'on n'a jamais fait de folie. Et puis, petit à petit, on est arrivé à créer quelque chose qui tenait la route.
Alors, on ne peut pas s'arrêter forcément en détail sur ces 25 ans, faute de temps, mais il y a trois grandes étapes quand même si on regarde ce passage-là. Le titre de Ligue B en 2016, la victoire en Coupe de Suisse en 2020, et puis la promotion en National League l'année suivante. S'il fallait retenir qu'un seul de ces événements, j'imagine qu'on t'a souvent posé la question, ce serait lequel et pourquoi?
C'est compliqué.
On a des questions compliquées.
C'est compliqué parce que si on n'en retient qu'un, les autres n'auraient pas eu lieu, donc c'est compliqué. Mais je pense que quand même, à la fin, en analysant le tout, c'est la Coupe Suisse, quoi, j'entends. Parce que là, il nous est arrivé aussi une histoire assez extraordinaire. Donc on arrive en demi-finale, on était bien. C'était bien. Et puis la Ligue me téléphone, puis il me dit, mais tu sais que si tu gagnes, tu ne peux pas jouer dans la finale dans cette patinoire, c'est exclu. Et alors là, on a gagné, et on s'est mis à chercher une patinoire partout à Bâle. C'était pas possible parce qu'il y a un match de foot à Fribourg. Ils étaient en travaux, puis ils avaient un match en retard, donc ils devaient le jouer. Bien, ils tiraient un peu la AG, comme on dit. Donc ils étaient pas très, très enclins à nous recevoir. Et puis, pour finir, on est allé à Lausanne, et puis on est allé la veille de Noël, le 24 décembre à Lausanne. Et puis là, ils nous présentent le coût de location de la patinoire. Et puis, bien sûr, on était un peu blanc, hein, parce qu'on n'est pas l'habitude de ce genre de coût.
Tu te rappelles du chiffre?
Alors, je me rappelle plus parce que justement, il y avait plusieurs étapes. Alors, j'ai dit, écoute, on a déjà commencé par louer le bas. Hein, parce ouais. que là, il y avait. Donc, tu louais le bas, tu avais à peu près 5000 personnes. Ouais. Et puis, tu louais le tout, tu avais été 8000 et quelques personnes. Et puis, ouais, on commence par louer le bas. Alors, on s'est mis d'accord. Le catering, tout ça, c'était eux qui encaissaient. Par contre, tous les produits venaient du Jura. Donc, LDD qui est parti avec 3000 saucisses dans sa voiture à rôtir. D'ajoie que les Lausannois rôtissaient pour nos supporters, donc c'était quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et puis ils ont mis en vente, en ligne, cette finale de Coupe Suisse qui s'est vendue en 48 heures. Quoi.
Oui,
et
là,
on n'en venait pas.
C'était assez fou. On a tous des souvenirs encore, je crois qu'à chaque fois qu'on l'évoque, il y a toujours un peu les poils qui se dressent, hein, Rafi, Julien.
Mais oui, parce que plus qu'un match, ça a été un événement. Et puis voilà, c'est un traceur de vie, quelque part. On se rappellera tous de ce 2 février, quoi. On a tous quelque chose à raconter de ce jour-là, quoi, évidemment. Quoi.
Il n'y avait pas que le sport, hein, c'est ça. Qui était formidable. C'est tout un canton qui s'est mobilisé et qui s'est en partie déplacé aussi.
Ouais, c'était dingue, quoi. Comme tu le dis, Rafi, hein, il y a des dates, même sportives, d'événements marquants dont on se souvient, même les heures qui précèdent, hein, comme on a vécu cette journée, c'était assez fou, quoi. Ouais.
Et puis un peu plus d'une année plus tard, c'est la promotion en National League, hein, le 28 avril 2021, avec un comité qui a quand même entretenu le suspense jusqu'au bout, jusqu'au sixième match et match décisif qui vous a offert cette promotion face à Kloten. La décision d'accepter cette montée, elle a vraiment été prise ce jour-là, le 28 avril 2021, quelques heures avant le sixième acte?
Effectivement, ça c'est juste, ça c'est tout à fait juste, c'est un peu une histoire de fou aussi, hein, parce qu'on avait analysé cette situation. Donc déjà, on avait une patinoire neuve, il y avait le Covid, donc on n'avait personne, on ne connaissait pas la capacité, si les gens allaient apprécier ce nouveau bâtiment ou pas, on n'était pas organisé au niveau des loges, du catering, etc. Donc on était vraiment pris au dépourvu. Et puis, la veille, je crois qu'on jouait le mardi, puis lundi, je téléphonais à deux, trois de nos partenaires potentiels pour cette ascension en National League. Je dis, voilà, si on accepte ça, nous, on devra arriver à un budget d'à peu près tant, puis vous devriez mettre aussi la publicité en relation avec le montant dont on a besoin. Puis on m'a dit, je te rappelle. Puis le lendemain, on nous a rappelé, on m'a dit, c'est bon, il faut y aller. Alors, du coup, Denis Vaucher, qui m'avait téléphoné le matin du match, j'ai dit, attends, j'ai pas de réponse, je peux vraiment pas te dire. Si on n'avait pas eu de garantie, parce qu'on allait au casse-pipe, hein, je veux dire, on avait un budget de 3 millions à l'époque, il fallait monter en tout cas à 8, hein, donc c'était compliqué. Et si on n'avait pas eu ces garanties-là, je sais pas quelle décision on aurait prise. Et l'après-midi, je lui ai rappelé, puis j'ai dit, c'est bon, Denis. Mais il n'y a pas que Denis, hein, c'était le même problème avec nos joueurs.
Et, oui. Et là, il y a eu des larmes. Dans le vestiaire.
Là, il y a eu des larmes dans le vestiaire. Oui, ça c'est clair, mais j'ai été leur dire avant le match, si on gagne, on monte. Voilà.
Ah, c'est une journée dingue. Hein.
Ouais. Mais le but n'était pas d'entretenir un suspense ou quoi que ce soit, c'était la vérité. Quoi. J'entends, il nous fallait des appuis de partenaires supplémentaires, importants, pour pouvoir prendre cette décision.
Et cette décision, elle a jamais été regrettée depuis?
Ah non, absolument pas. Absolument pas. La preuve, hein, j'entends, on avait fait un budget, je crois, de 7,8 millions ou 7,5. On est arrivé à, je crois, pas loin de 10. L'année passée, on a passé les 12. Non. C'est une bonne décision, je pense.
Par contre, pour la troisième année de suite, à jouer bon dernier de National League, tu pensais à ce moment-là que ça prendrait autant de temps, que ça serait aussi difficile que ça de parvenir à rivaliser, de vraiment se faire sa place dans ce championnat de National League ?
Alors, je ne veux pas dire que ça me paraissait facile de rivaliser. Je pense rivaliser, on l'a fait. On l'a fait cette année. On va à Zurich, on est à 2-2, à 12 secondes de la fin, on prend le 3-2 parce qu'on n'est pas concentré, à mon avis, parce que nos attaquants veulent marquer le troisième alors qu'il faut préserver le 2-2. Par exemple, j'entends des pertes de matchs sur un but d'écart. On en a vu toute la saison avec toutes les frustrations que ça amène. Donc, je veux dire, on a fait un pas sportivement, mais pas au niveau des résultats. Alors, je ne m'attendais vraiment pas, on ne s'attendait pas, nous, dans le staff, à finir 14e et bon dernier avec le nombre de points qu'on a eu qui est encore inférieur à celui de l'année précédente. Sachant que, par contre, notre plus-minus, c'est-à-dire que les buts marqués, les buts encaissés, on est meilleur qu'un Kloten qui a, 15 points de plus que nous. Puis à un moment donné, à Noël, Langnau en avait 17 de plus que nous, puis ils avaient le même nombre de buts marqués et encaissés. Donc c'est eux qui sont arrivés à faire ce petit pas que nous, on n'a pas réussi à faire et qu'on doit faire dans le futur. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Si on regarde les statistiques, Ambry, je pense, a fait deux fois les playoffs depuis 12 ou 13 ans. Langnau, une fois depuis 9 ans ou 10 ans. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, un Ambry qui arrive enfin 8e, on fait des play-in et ils sont éliminés. Ça va être horrible, je veux dire.
C'est juste.
Et puis un Langnau qui était à 3 points de Bienne ou 2 points de Bienne, quelque chose comme ça. Donc, ils ont aussi amélioré leur qualité de jeu.
Bon, dans cette partie du podcast, hein, on offre toujours la possibilité aux internautes aussi de poser les questions à notre invité, Rafi. C'est toi qui les as recueillis un peu ces questions.
Exactement. Et puis on sent un petit peu l'humeur des supporters là, dans leurs interrogations. On va commencer par une question de Dan de Vandelincourt qui te demande, Patrick, dans le budget, est-ce que le club a anticipé une variante concernant l'annulation du play-out ou doit-on craindre des mauvaises nouvelles de ce côté-là ?
Non, c'est impossible d'anticiper une annulation de play-out, ça c'est bien clair. Simplement que dans un budget, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. J'entends, on peut mettre 4 matchs de play-out, on peut mettre 2 matchs de play-out. Ils n'ont pas lieu, c'est effectivement quelques centaines de milliers de francs de manque à gagner, hein, pas de déficit, mais de manque à gagner. Et puis, il faudra faire avec, hein, je veux dire, on n'aura pas le choix.
Mais ça veut dire qu'en début de saison, on table là-dessus ? On se dit, on va jouer 2, 3, 4 matchs de play-out ? Ou on se dit, la saison, elle se terminera après 26 matchs à domicile ?
Non, alors, pas après 26 matchs à domicile, puisque dans le règlement, il y a des play-out. Donc on prend toujours le plus mauvais cas possible ou le meilleur possible. Ça veut dire, nous, on gagne 4-0 la série ou on perd la série 4-0. Ça veut dire, on a 2 matchs à domicile et puis on a fini. Voilà, ça c'est dans le budget, puisque c'est dans le règlement. Donc ces 2 matchs-là, de play-out, ils étaient effectivement budgétés.
Alors j'ai une autre question, je crois que c'est Agnès qui a posé cette question, qui te félicite déjà pour tout ce que tu fais pour le HCA. Une question d'un couple retraité, est-ce que l'abonnement va augmenter la saison prochaine ? Point d'interrogation.
Alors c'est une bonne question, l'abonnement la saison prochaine n'augmentera pas parce que partons du principe que la patinoire on doit la remplir et puis c'est pas en augmentant le prix des abonnements dans une situation comme on connaît aujourd'hui et surtout pour des retraités qui vont faciliter la tâche, donc on ne va pas augmenter nos prix d'entrée match et d'abonnement la saison prochaine.
D'ailleurs, c'est peut-être le paradoxe un peu de cette saison, hein, les résultats qui ont été moins bons que l'hiver passé, mais par contre, la moyenne de spectateurs qui a augmenté, plus 220 grosso modo sur chaque soirée. Comment tu l'expliques ?
Déjà, ça veut dire qu'on a une bonne organisation, ça veut dire que la patinoire, elle est sympathique, elle plaît aux gens, et ça veut surtout dire que les gens viennent voir un sport qui est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une des meilleures ligues d'Europe, mais même on est champion d'Europe. D'ailleurs, l'équipe Genève est championne d'Europe. Donc, j'entends, il y a un spectacle à voir, et puis des joueurs de qualité, il y a toujours quelque chose qui se passe, qu'on gagne ou qu'on gagne pas.
Et désormais, comment faire pour augmenter encore cette moyenne ? Tu l'as dit, on aimerait remplir la patinoire.
Ah ben on risque de rajouter quelques places supplémentaires encore, ça c'est un peu l'objectif pour le futur.
Mais comment faire pour parce que là on est à 4400 de moyenne par match, on voit Fribourg par exemple qui est guichet fermé à tous les matchs, comment est-ce qu'on peut atteindre ces 700 personnes en plus sur chaque rencontre?
Mais je pense que si on arrive à offrir une bonne visibilité à des prix compétitifs, on peut très bien augmenter notre moyenne de spectateurs, mais il faut qu'on voit aujourd'hui que je ne parle pas des jeunes qui sont debout, qui sont enthousiastes, etc., mais que monsieur tout le monde, il veut un certain confort pour venir voir un match de hockey. C'est fini de venir, d'avoir froid, d'être debout, d'avoir un manteau, de mal voir, etc. Il faut que le confort soit là.
On va continuer avec les questions. Là, j'ai une question de Philippe de Porrentruy, qui ne doit pas être un grand fan de Christian Wolven. Il demande comment le HCA compte-t-il redonner une âme à cette équipe avec le coach actuel. Débrouille-toi avec ça.
Ça, c'est une question personnelle de ce monsieur que je ne connais pas non plus. Ça n'engage que lui, d'ailleurs, puisqu'il n'est pas, au courant de ce qui se passe dans le vestiaire ou comment sont préparés les entraînements et les matchs. J'ai rien à répondre à cette question.
D'accord. Lucie qui demande « Qu'est-ce que ça fait de voir son fils prendre sa retraite et qu'il laisse son maillot accroché au plafond de la patinoire ?»
Ah ben ça fait un coup de vieux, ça c'est certain, hein. C'est certain, puisque Jordan il a commencé le hockey à 3 ans, il a fini à 36, j'en ai bientôt 65, donc voilà, ça fait quand même une bonne génération, génération qui est passée, mais sinon ça fait aussi plaisir, parce que ça veut dire que on arrive à quelque chose en 30 ans.
J'ai encore une question ici. Le HCA s'est passablement développé dans l'accueil du public et des loges qui permet d'augmenter les recettes et le budget. Mais comment le club peut-il offrir encore plus à ses joueurs en termes d'infrastructures, de National League, d'entraînement, logement, prestations de soins? Il y a aussi une envie de développer ce secteur-là.
Ah, ben, il faut savoir une chose déjà, prestations de soins, ben, c'est clair qu'on a une équipe médicale qui est présente pratiquement à chaque entraînement, qui est une équipe indépendante, mais qui nous facture en fait ses heures et le suivi de chaque joueur est suivi au niveau médical, les masseurs sont là tous les jours, deux ou trois masseurs, j'entends il y a un staff médical là derrière que peut-être on voit pas parce que effectivement ils sont là pendant la semaine, mais tout ça est réglé. En ce qui concerne les appartements, ben chacun a son appartement, si c'est des joueurs de l'extérieur, évidemment, c'est à nous de les loger, et ça a toujours été comme ça.
Justement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la structure du HCA Joie, elle est digne de la National League, que ce soit par rapport aux joueurs, par rapport à l'encadrement, par rapport au domaine administratif, etc.?
Oui, je pense qu'on a fait de gros progrès de professionnalisation à ce niveau-là. Il y a encore quelques bugs à corriger, hein, ça c'est sûr, notamment en matière de préparation physique, etc., de suivi. Là, on va être un peu plus sévère la saison prochaine. Sinon, le reste, j'entends, il y a un staff technique là derrière qui est assez impressionnant, hein.
Dans les bureaux aussi, au niveau administratif, il y a des choses encore à professionnaliser davantage ?
Alors, je pense qu'on va certainement, dans le futur, étoffer tout ce qui est marketing. Et puis, en ce qui concerne la bureaucratie en elle-même, on va utiliser de plus en plus nos réseaux et puis travailler non pas en papier, mais travailler sur nos ordinateurs. Parce que, voilà, mais on a encore des gens qui, aujourd'hui, viennent chercher leur abonnement à telle heure en frappant à la porte du bureau.
Bonnes habitudes.
Et ceux-là, on ne peut pas leur dire « Allez sur Internet, commandez votre abonnement », ce n'est pas possible. Donc on doit avoir quand même un service qui leur permet de récupérer leurs abonnements.
Petite question personnelle, moi, très vite, hein, en parlant de tes 25 ans, Patrick, alors tu as beaucoup consacré au HCA Joie, mais quelle période, finalement, t'as le plus accaparé par le club? Je pense peut-être les semaines, les mois qui ont suivi cette promotion en National League, ça a été celle qui t'ont fait le plus transpirer ?
Oui, je pense que c'est celle-là, effectivement, parce que je ne peux pas dire qu'on était dans une routine en Swiss League, mais ça faisait quand même des années qu'on était là, on savait comment ça fonctionnait, toutes nos staffs de secrétaires connaissaient les timings, les délais, etc., que ça soit inscription des équipes à la Ligue et tout le commerce, et là on se retrouve en National League où finalement il faut tout faire. Il a fallu engager un chef du marketing, il a fallu engager quelqu'un au catering, un professionnel qui s'occupe de tout ce qui est repas, etc. On a repris en même temps le restaurant de la patinoire, il fallait quelqu'un pour la gérance, c'était rapide et compliqué, mais on s'en est sorti pas trop mal, ça a pas trop mal fonctionné malgré tout. Et puis on avait encore notre tente, donc il fallait gérer les deux choses, et c'était un peu du sport en quelques mois, hein, parce qu'on a fini, je crois que c'était presque fin avril, et puis on recommence le mi-septembre.
Ouais. 25 ans, et maintenant ? Il y a une limite que tu as en tête, que tu ne veux pas forcément dépasser ?
Non, j'ai pas de limite en tête, mais je ne veux pas non plus m'accrocher et puis, penser que j'ai la science exacte, parce qu'il y a des jeunes derrière, et on le voit notamment en ce qui concerne tous les réseaux sociaux et tout ce qu'on publie, etc. Ça a été mis en place par notre équipe marketing. Et moi, j'en pique pas une, si on veut appeler un chat un chat, c'est pas mon job, mais je suis pour, je laisse faire, donc je ne voudrais pas m'accrocher, et s'il y a quelqu'un qui arrive et puis qui veut reprendre ça, je lui laisserai avec plaisir, hein. J'entends maintenant, comme je l'avais dit il y a pas longtemps, on se retire gentiment, nous les cadres, de l'opérationnel, c'est plutôt de la stratégie, voire de la vision à terme, ou une vision, je dirais, globale de l'ensemble du club et non pas les détails.
Il y a l'idée dans un coin de la tête de transmettre ça un jour à Jordan ?
Non, je ne veux pas qu'ils soient embêtés comme j'y étais. Pour l'instant, il a une entreprise, il faut qu'il s'occupe de son entreprise. Non, pas du tout. Non, c'est pas une question de famille. Mais vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Là, on parlait du nouveau bâtiment. J'ai signé le contrat de bail avec Claude Girardin l'autre jour, et ma femme était là, je dis, viens voir, je te montre un truc. Alors ce contrat de bail va de 2023 à 2073, lundi 1er mars à midi. Alors si je fais le décompte, je vais aller remettre les clés au chef du mouvement junior en 2073, je ne sais pas si c'est moi qui irai, hein, donc on est d'accord. Donc voilà, je veux dire, on investit pour le long terme et puis pour la jeunesse de ce coin de pays, hein, puis ce sport qu'est le hockey sur glace, quoi. J'entends, c'est pas à titre personnel ou quoi que ce soit, moi j'aurais suffisamment d'autres choses à faire.
Le face-à-face.
Je me suis dit que pour boucler la boucle de cette saison de la bande du jeudi, il serait sympa de replonger dans les moments qui ont marqué d'une manière ou d'une autre notre émission. Alors Julien et Mathieu, je vous propose un petit jeu, si vous êtes d'accord.
Hein, bon, avec plaisir, on est impatients de
un quiz,
très volontiers.
Un quiz, il paraît que c'est à la mode ces temps, pour voir si vous avez bien suivi toutes ces émissions et tous les matchs des jaunes et noirs. Alors, c'est parti.
Attends, je précise juste, j'ai manqué deux émissions.
Ah, ben,
je
serais peut-être faire
un
avec.
Petit peu prétérité.
Auditeur plus attentif.
Ouais, c'est vrai.
Alors, c'est parti pour le grand quiz de la botte du jeudi. Jingle. Ah, ben non, il n'y a pas de jingle. Bref, on va faire ça pour s'amuser. Même si je promets un petit prix au vainqueur.
Voilà.
Ouais. Alors, Patrick, bien entendu, tu peux aussi répondre à ces questions. Puis, comme je connais bien mes acolytes, je n'ai pas fait un questionnaire très pointu. Donc, on va commencer plutôt.
Dire qu'on n'y connaît rien, quoi.
Exactement.
Il n'y a qu'une seule règle. Hein. Je n'accepterai la réponse qu'à la fin de l'énoncé.
Et c'est le
donc,
premier qui répond.
On ne s'excite pas. Voilà, c'est ça. Okay. Merci. Alors, on y va. Question 1. J'aimerais le nom du premier buteur de la saison du HC Ajoie, mais aussi le score du premier match de championnat.
Le premier match de championnat, c'est défaite 1-0.
Non,
c'était à Zurich.
C'était à Zurich, oui.
C'est Gilly en colère et cette défaite 7 à 3.
Et un point pour Mathieu.
Merci voilà. Julien de m'avoir rappelé que c'était à Zurich.
J'étais pas, j'étais à Bernozanne, donc je m'excuse.
Alors j'ai même fait un petit tableau, je peux noter les points, voilà, comme ça je suis au fait. Voilà. Question, non, on est pro, on ne l'est pas. Question 2. Quel était le prénom du jeune fan de Thibaut Frossard qui nous a rejoint lors de l'émission du 14 décembre, une émission spéciale avec un Julien en très grande forme ?
Maël.
Voilà. Le point va à Julien. Question 3.
Félicitations.
Je vais vous demander maintenant le nom de l'entraîneur qui n'est pas le meilleur ami de Jonathan Hazen. Johnny nous a dit de lui, il m'a fait détester le hockey.
C'est moi qui ai gratté l'info. Oui,
voilà. Le prince de
Val-de-Val. Un indice pour le prénom, c'est un acteur américain spécialisé dans les arts martiaux. Et pour le nom de famille, un défenseur de Zurich qui a pour prénom Yannick.
Alors Weber, Will Weber.
Alors c'est le l'acteur, c'est Norris, le nom de famille.
Chuck Weber.
Chuck Weber. Voilà. Voilà, on y arrive.
Tu as donné le deuxième point là. Hein.
Voilà. Alors on l'a dit la semaine passée, Daniel Audet.
C'est dur tes questions.
Ah ouais, hein. C'est dur. Hein.
Fallait suivre.
Hein. On l'a dit la semaine passée, Daniel Audet, pourtant top scorer du HCA n'a obtenu qu'une seule étoile durant toutes nos émissions. Alors j'aimerais que vous donniez le nom du journaliste qui lui a offert cette mention. C'était le 8 novembre. Vous avez une chance sur 3.
Rafi.
Julien.
Non. C'était toi, Mathieu. Pas de point sur cette question, pourtant ce n'était pas la plus compliquée. Question 5, là, c'est un petit peu plus corsé. Je vais vous demander de me retrouver le nom de la fameuse loi que j'ai osé soumettre autour de la table lors du podcast avec Thibaut Frossard. Je parlais de statistiques qui sautent en plein visage.
La loi de la pustule.
La loi de la pustule, oh, un joli point pour Julien, voilà. Question suisse.
Je crois que tu peux me la poser l'année prochaine, je m'en souviendrai.
Les joueurs du HCA qui sont parfois très rock'n'roll dans leurs propos, on en profite pour les remercier. Certains qui n'ont pas le français comme langue maternelle et qui ont joué le jeu. Et j'aimerais que vous retrouveriez la personne qui a dit de la même phrase highlight joueur, les choses qu'on skill, shutdown hockey et une équipe vraiment 360%. Qui a dit ça dans la même phrase?
Oula. Yannick Fischer?
Non, c'est pas Yannick Fischer. Ah. Mais c'est effectivement un Suisse allemand.
Alors, écoute, il reste pas grand monde. Ouais, c'est Fabio Arnold.
C'est Fabio Arnold, donne le point, ouais. Voilà. Question 7. On a même eu des invités qui sont essayés au jeu de mots, même que nous, on n'oserait pas. Alors, qui a dit à cette table, pour parler d'un moment un petit peu critique, c'est pas toujours la joie. La joie, la joie. Vous l'avez?
Oui, qui a dit ça. Alors, qui l'a dit?
Je verrais bien Guillaume Asselin.
Non.
Non, c'est pas le capitaine, c'était trop tôt. Thibaut Frossard?
C'est pas Thibaut Frossard, c'est un gardien.
Damiano Ciacci.
Ah ouais, c'est le seul
qu'on a eu. Non, mais alors, on a droit à plusieurs réponses, là.
Apparemment, oui.
Alors, question 8, elle est facile. Quelqu'un a dit ici, et ce n'est ni Mathieu ni Julien, on est comme un vieux couple, on se dit tout. Qui a dit ça et il parlait de qui?
Phil DeVos avec Johnny Hazen.
Ben oui, évidemment, ça c'était facile. 4-3 pour toi, Julien. Question 9. La semaine passée, on avait Kevin Bozon comme invité. On a parlé un peu de son frère, de son père, de sa maman et de son grand-papa. Un jour de hockey dans les années 60, je veux son prénom. Patrick, tu sais, le grand-père de Kevin Bozon?
Marius.
Le grand-père.
Tu me laisses combien de temps pour répondre?
Fernand.
Non plus, c'était basique, c'était Alain Bozon. Voilà. Okay. C'était pourtant la semaine passée seulement. Voilà. Ouais. Question 10, c'est
comme
ma préférée.
On n'écoute pas les réponses, Président.
Alors la question 10, c'est ma préférée, j'ai dit celle qui résume peut-être le mieux cette saison de la bande du jeudi, je vous jure que c'est vrai. Qui a dit ici, autour de cette table, la phrase la plus sensée de toute l'année? D'ailleurs, je l'écoute en boucle tous les soirs avant de me coucher. Moi, je suis du côté de Rafi. Honnêtement, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit.
C'est Guillaume Asselin.
Ah, je le donne à Mathieu. Voilà, le point à Mathieu.
Égalité.
Grandement avantagé,
pas du tout.
Alors voilà. Comme promis, le grand gagnant repart avec un lot, mais comme il y a match nul, il faudra le partager, j'en ai qu'un. J'aurais pu vous offrir une bouteille de Johannisberg, mais non. J'aurais pu aussi offrir des cannelloni ricotta épinard ou une canne dédicacée de Oula Palvé. Mais je voulais vraiment marquer
déjà là, la canne. La canne est déjà là, avant la signature.
Dernier numéro d'abord de jeudi, c'est collector et je suis heureux de vous l'offrir. Voilà, je l'offre à Mathieu, tu pourras partager. Voilà.
Montre. Oui, Julien, je te laisse décrire. Oh, ça c'est joli. Hein.
Alors, c'est un magnifique t-shirt. Couleur un peu à joulotte, hein, jaune et noir, avec inscrit la bande du jeudi.
Joli.
Il est bon. Voilà. Félicitations. Petit clin d'œil à mon collègue Olivier Verny qui l'a réalisé ces derniers jours.
Et très beau.
Et vu la taille, c'est pour toi.
Tu penses?
Ouais. Non, tu crois pas?
On l'essaye après.
Puis, Splendide en tout cas, merci Raphie.
Merci.
Et chapeau pour le quiz, hein. c'était vraiment sympa. Et j'ose espérer que ça donnera envie à tous les auditeurs d'aller se replonger dans les précédents podcasts. Hein. Patrick, ça donne envie hein, d'aller écouter les superbes phrases de tes joueurs.
Oui, tout à fait. Je ne connaissais pas exactement ce qui se passait, mais effectivement, ça donne envie.
Les ailes de la vouivre.
Ben voilà, on a fait des prédictions dans le vide, hein, le play-out ayant été annulé, donc on ne va pas déjà se projeter sur le prochain championnat de National League, c'est quand même beaucoup trop tôt. Par contre, Rafi, ce dernier épisode, c'est l'occasion aussi d'évoquer les grands thèmes du hockey suisse de demain, parce qu'il y a eu des annonces et des rumeurs un peu à tous les niveaux ces derniers temps.
Ouais, Mathieu, on vit un mois de mars assez déconcertant. Il y a plein de questions qui se posent, notamment quand on structure le paysage actuel du hockey suisse. Premier point, Patrick, on est d'accord pour dire que cette annulation de la série de play-out, c'est une bonne nouvelle pour le HCA et Kloten aussi, mais ce n'est pas forcément une bonne publicité pour le hockey suisse. Qu'en penses-tu ?
Non, tout à fait, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas une bonne publicité pour le hockey suisse. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Ça veut dire que le hockey suisse a un problème à sa base. Ça, c'est quoi? C'est la Swiss League et puis c'est My Hockey League. Et finalement, là, il y a quelque chose qui joue plus, qu'il faut remanier. Il y a une ligue de trop. On voit des équipes qui étaient quand même fortes à l'époque en Swiss League, en Langenthal, qui à un moment donné dit non, mais moi je vais en My Hockey parce que j'arrive pas à survivre en Swiss League. Martini fait une saison sportivement qui n'était pas si mal que ça, mais qui financièrement ne leur permet pas de continuer. Ça fait deux équipes. Bellinzone, on est en train de dire, oh, ils vont peut-être se retirer. On entend que Holton, sur les réseaux sociaux, dirait qu'il se pose des questions de savoir s'ils vont rester dans cette Swiss League. Donc, quelque part, ça ne joue pas. On a, là, notre pyramide du hockey suisse, elle est dans le sens contraire, j'entends. Donc, ça ne peut plus continuer comme ça.
Mais vous êtes un petit peu responsable, vous, les clubs de National League, de cette situation précaire de la Swiss League, quelque part.
Alors, je dirais pas ça qu'on en est responsable, parce que je pense que quand même, grâce à la National League sur le contrat TV, il faut savoir qu'on donne quand même, il n'y avait rien au début, mais aujourd'hui, depuis l'année passée, on donne 500 000 à la Swiss League, à titre de bien plaire, parce que la CIF ne leur donne plus rien du tout. Alors, on me dirait, c'est peut-être pas assez, j'entends. Avant, on avait 300 000, quand on était en Swiss League. Il y avait à peu près 3 millions qui se partageaient sur l'ensemble de la Swiss League. Aujourd'hui, c'est 500 000. OK, c'est pas... C'est
500 000 par club, donc.
Non. Ah. 500 000 en tout. Les 3 millions, c'était aussi pour la Ligue. Alors, ouais, ça dépend si on est 12.
Ouais, c'est quand même nettement moins qu'à l'époque.
C'est quand même nettement moins qu'à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais encore vice-président de la Swiss League parce que on n'avait pas dans notre tête ici que le HCA Joie allait monter en National League et puis espérer y rester. On me disait non, mais il faut faire en sorte que nous, on vende notre propre produit, qu'on le vende à nos abonnés, qu'on ait nos propres TV, etc., etc. Ça marche pas. Il fallait rester dans le contrat TV de MySport pour avoir une visibilité nationale. Et aujourd'hui, cette visibilité nationale, la Swiss League ne l'a plus. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. En plus, il y a moins d'équipes attractives. Donc avant, il y avait quand même, à un moment donné, un Lausanne qui était là, un Bienne qui était là, un Ajoie qui était là, ou qui attire du monde chez lui, à l'extérieur, etc. Il y avait Holton Langenthal, où les derbys étaient pleins à craquer. Tout ça en train de gentiment disparaître au profit de quoi ? Ben, on voit le finaliste aujourd'hui, c'est un club ferme, c'est Gatsika Lions, qui rivalise avec ses meilleures équipes de Swiss League, avec un budget moindre par rapport à ce que ont les autres. Qu'est-ce qu'il faudra faire dans le futur? Est-ce qu'il faudra refondre la MySport avec la Swiss League? Et puis que monter peut-être la National League à 16 équipes, selon les infrastructures qu'auront les clubs, parce qu'il faut des infrastructures quand même. Et puis peut-être se poser la question s'il ne faudra pas une équipe en Valais, par exemple. Et puis que chaque équipe ait son équipe ferme dans cette MySport, qu'il soit une MySport ou MyHockey aujourd'hui, mais qui soit finalement compétitive avec de jeunes joueurs qui puissent faire monter puis descendre. Et puis qui soit alimenté par ces clubs de National League, ces 14 ou 16 clubs, ça il faudra voir. Mais ça c'est mon analyse personnelle, hein. À côté de ça, j'ai pas discuté ni avec Zug ni avec Zurich, encore moins avec Berne. Mais voilà, moi je pense il y a aujourd'hui une ligue de trop. Puis cette ligue, ben c'est cette Swiss League qui coûte cher par rapport à MyHockey League. Et puis qui n'est plus rentable.
C'est un peu le modèle nord-américain que tu nous sors avec une ligue fermée, ouais, la NHL, aussi, et puis la HL derrière, ouais, avec les clubs écoles.
Un petit peu, oui. Mais je vois difficilement d'autres solutions.
Donc tu serais pas, évidemment tu vas dire non, tu serais pas pour un retour à 12 équipes en National League.
Mais si on revient à 12 équipes en National League, on n'a pas résolu le problème de la Swiss League, qui se retrouvera peut-être à 8 équipes l'année prochaine. Tu serais 10 alors. Puis après, tu veux faire quoi avec le 12e? Il va être de nouveau relégué, remonté. C'est mon approche, parce que, évidemment, on parle aussi un peu pour nous.
Hein, on est passé de l'autre côté, là.
On est d'accord, ben, forcément qu'on est passé de l'autre côté. Et ce discours-là, ben, quand on est en Swiss League, on n'a pas tout à fait le même que quand on est en National League, mais les investissements sont tellement importants au niveau infrastructure, au niveau structure du club. Imaginez-vous que si demain on coule, mais chez nous, c'est 40 personnes au chômage, quoi. Je parle même pas des joueurs, hein. Je parle même pas des joueurs, puis c'est une perte énorme quand j'entends on met 10 ans pour essayer de s'en remettre.
Mais cette question-là, on la pose clairement sur la table quand on a des conseils d'administration ou des séances de la National League ?
Non, aujourd'hui, elle n'est pas posée. Mais on aura justement, on a un meeting qui va se faire au moins un peu plus tard que le printemps, où il y a là-dessus un meeting de deux jours, à Prague d'ailleurs. Après le championnat du monde, où on va débattre de quelles solutions faut-il adopter pour que cette ligue soit une ligue avec une pyramide, puis que notre niveau de hockey reste celui qu'il est aujourd'hui, parce que c'est vrai que la National League, j'entends le niveau du hockey suisse, c'est extraordinaire.
Mais j'ai presque envie de dire joli, non, mais ça fait du bien d'entendre pour une fois ce discours-là, parce que moi j'ai pas souvenir de l'avoir déjà entendu de la part d'un dirigeant de club, et c'est une vision que je partage aussi. Sans une pyramide, c'est compliqué d'amener les meilleurs éléments au sommet, et c'est vrai que ça fait peur, hein, quand même, quand on voit ça, Rafi, Julien, de voir des Holton qui se posent la question de descendre en 3e division, de voir Langenthal la saison passée qui demande la relégation volontaire. On se pose quand même clairement des questions.
Ouais, et il faut dans une pyramide, il faut des étages, et il faut que chaque étage soit solide pour pouvoir supporter. Et bien sûr, c'est une évidence, et il faut absolument que ces régions qui aiment le hockey, où il y a une fort bastion, ces régions-là puissent continuer à soutenir leur club, qu'importe la division, mais dans des divisions qui correspondent aussi à leurs ambitions.
Ouais, c'est juste, quoi. Par discutant un petit peu aussi de ce qui se passait avec, je crois, avec Chaudfond, même les gens qui suivent, hein, ils ont un public qui a été peut-être jamais aussi nombreux qu'il l'a été cette année, en tout cas dans la saison régulière, dû au titre aussi de l'année passée. Mais cette ligue, apparemment, elle devient de moins en moins attractive, quoi. La Swiss League, avec mettant ce qu'on a entendu sur Holton, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un coup de bluff? C'est un message d'alerte pour signaler, voilà, pour mettre en évidence les soucis qu'il peut y avoir? Je sais pas, mais effectivement, j'ai aussi l'impression, un peu comme toi, Patrick, que la création de cette My Hockey League, elle a prétérité aussi la Swiss League, quoi.
Ouais, ça partait d'une bonne intention, la MyHockey League, hein. C'était pour donner la possibilité aux joueurs qui sortaient en U20 d'avoir une ligue qui corresponde aussi un petit peu à leur niveau, hein. C'était à la base, c'était.
Oui, c'était la base, c'était ça, tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette attractivité de la Swiss League, l'a plus. Mais franchement, et on les voit plus à la télévision.
Les voit plus. C'est juste, oui.
Plus avant. On nous voyait. Oui. On parlait de nous. On parlait du classement. Oui. Les playoffs. Tous les playoffs. Il y avait un match par semaine qui était télévisé systématiquement. Et tous les playoffs étaient télévisés en direct. Donc il y avait une attractivité pour les gens, pour les sponsors, pour les supporters, etc. Il y avait matière à aller investir dans cette Swiss League aujourd'hui. Mais qui veut le faire? On la voit plus. Elle est inconnue. Alors autant aller dans MySport avec un budget divisé par deux ou par trois. Et puis rester là-dedans.
C'est ce que j'allais dire, la visibilité. Vous le ressentez au HC Ajoie, elle est cruciale aujourd'hui. C'est ce que demande en priorité un sponsor?
Oui, bien sûr, quand on arrive à ce niveau-là, un match télévisé en direct, c'est hyper important. Hein. C'est hyper important.
Peut-être une question aussi sur le hockey suisse. On en a beaucoup parlé ces dernières années, mais le passage à six étrangers, est-ce qu'il doit perdurer à long terme? On peut toujours se poser la question aussi des performances à venir de l'équipe nationale avec des joueurs suisses qui ont peut-être moins de responsabilités que par le passé.
Oui, alors ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Le HC Ajoie n'était pas dans le coup, n'a pas voté pour ces six étrangers puisqu'on n'était encore pas en National League. L'argument principal des clubs de National League, c'était de dire les étrangers vont nous coûter moins cher que les Suisses parce que les Suisses exagèrent, il n'y en a pas assez, etc. Tout le monde se les arrache et tout.
Les Lettons et les Slovaques vont venir à pied pour jouer en Suisse.
Voilà, ok. Ben, ils sont venus, mais pas à pied. Hein. Je veux dire, les budgets ont continué d'augmenter, les masses salariales ont continué d'augmenter. J'entends un rythme fou chez des grandes équipes, donc ça n'a rien changé, strictement rien au niveau financier. Maintenant, c'est sûr que des équipes un petit peu moins bien classées, on le voit avec Langnau, on le voit avec Ambry, on le voit malheureusement pas avec nous, mais on risque de le voir dans les prochains temps, que si on a six bons étrangers à un certain niveau, on arrive à rivaliser un peu plus avec les grosses cylindrées du championnat.
Tu le dis, les coûts vont augmenter. Est-ce qu'il faudrait arriver avec un plafond salarial, comme ça se fait outre-Atlantique? C'est aussi des discussions qui sont sur la table. Hein. Denis Vaucher l'a dit plusieurs fois dans les médias. Après, il y a des questions juridiques derrière, des questions de droit du travail.
Oui, tout à fait. On en parle, on élabore ce principe d'un plafond salarial. Mais c'est absolument pas dans le code des obligations. Vous n'avez pas le droit de plafonner quelqu'un dans son salaire. Par contre, ce qui se passe aux États-Unis, c'est la masse salariale totale qui est plafonnée. Juste, ouais. Donc vous avez un joueur, s'il gagne lui X millions, ben l'autre devra gagner X centaines de mille pour ne pas dépasser l'ensemble de la masse salariale. Mais contingenter un joueur en disant « Non, ton joueur étranger ou ton joueur suisse qui a X match ou qui a 20 ans, il doit toucher tant au maximum », ça, je ne pense pas que ça sera possible. Parce qu'il y a quand même la loi du marché, et puis il n'y a personne qui peut empêcher quelqu'un de gagner de l'argent, parce que le gars, mais on avait fait d'ailleurs un projet, les 18, 19, 20 ans, 21 ans, avec des contrats types, et ça ne marchera pas, parce que vous avez un jeune qui a 20 ans qui explose, qui est capable de jouer dans un premier bloc de National League, et puis un autre qui a 20 ans, il faudra encore 2 ans pour se développer. C'est pas parce qu'il a 20 ans qu'il doit gagner la même chose que l'autre, qui n'a pas les mêmes capacités techniques et physiques à son âge. Donc ça sera compliqué, si ça doit passer par le Parlement. Et puis, il y a une loi qui doit venir là-dessus. Oui, vous avez le droit de faire. Il n'y a aucune un plafond salarial. Il n'y a aucune entreprise en Suisse qui a des plafonds salariales, quoi, j'entends. Ça ne se fait pas.
Merci, Patrick. Hein.
Mais merci à vous. C'était très sympa.
Oui, un grand merci à notre invité du jour, Patrick Aouert, le président pour boucler la saison, hein, rien de tel. Belle fête de fin de saison, d'ailleurs c'est dimanche à Porrentruy. Et puis surtout, plein succès dans la construction du HCA de demain. On est déjà très curieux des prochaines annonces.
Moi aussi.
T'as rien à nous lâcher là.
Non, je ne peux rien lâcher. Ça sera fait, je pense, la semaine prochaine, puisqu'on va faire quand même la fête avec les anciens. Et puis, ce serait quand même pas correct de ma part d'annoncer aux médias un non-renouvellement de contrat, par exemple, alors que la personne en question n'est pas au courant, on n'a pas parlé avec.
Effectivement, bien, c'en est terminé de la première saison de la bande du jeudi. Un immense merci à vous d'avoir embarqué dans cette aventure. Ça a été un plaisir de vous retrouver régulièrement tout au long de l'hiver, Rafi, Julien, pour échanger sur le HC Ajoie. On repart pour un tour?
Si je suis invité, très volontiers.
L'invitation est lancée. Rafi?
On sera là.
On sera là, magnifique. J'en profite, on en profite, je crois que je peux le dire au nom du trio, pour remercier aussi le quotidien jurassien et puis RFJ de nous avoir fait confiance. C'est d'ailleurs sur les sites internet de ces deux médias que vous retrouvez tous les épisodes de ce podcast. Et puis quant à vous qui nous suivez, merci aussi pour votre écoute, pour votre participation sur les réseaux sociaux, pour vos retours, c'est toujours très précieux. Et donc, à la saison prochaine.
La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.